Vous écoutez, on lit pour vous.
L'essor du solaire au pays du pétrole. Un dossier d'Ariane Kroll, paru le 4 mai 2024 dans la presse. Le printemps a des airs d'été à Edmonton. Le mercure dépasse les 18 degrés Celsius. Un papillon volette devant la maison de Bruce et Cory Moorhead. Sur le toit, des ouvriers finissent d'installer des panneaux photovoltaïques. Rués vers le solaire, leur chef d'équipe nous entraîne au sous-sol. Ici, c'est le disjoncteur pour votre système solaire. Vous avez un compteur bidirectionnel, vous aurez une application que vous pourrez télécharger sur votre téléphone, explique Mary Jane Maher au couple de retraités. Nous croyons à l'environnement et à l'importance de faire notre part d'effort. Notre fils, qui habite en Afrique du Sud, a des panneaux solaires. Il nous a encouragés à en installer, explique Cory avec un large sourire. Comme des milliers de ménages, d'entreprises, de municipalités et d'organisations de la province, Cory et Bruce ont adopté l'énergie solaire pour alimenter leurs propriétés. Au bout de leur petite rue résidentielle, plusieurs autres toits sont déjà coiffés de panneaux photovoltaïques. L'entreprise qui a installé leur système peut en témoigner. Kubi Renewable Energy a posé des panneaux solaires sur environ 1200 maisons et une centaine d'édifices commerciaux l'an dernier. Cette année, elle s'attend à équiper quelques 3000 maisons et 250 clients commerciaux. Chaque panneau installé sur un toit, c'est 400 watts d'énergie qui ne provient pas d'une source émettrice de carbone, souligne le PDG de Kubi, Jake Kubiski. Il y a 10 ans encore, cet électricien de métier travaillait dans le secteur pétrolier et gazier. Un voyage au Costa Rica, durant lequel il a vu l'usage fait de l'éolien, du solaire et de la géothermie alimentée par un volcan, lui a donné envie de travailler dans les énergies renouvelables. La géothermie volcanique n'était pas une option en Alberta et les projets éoliens étaient de trop grande envergure. Il s'est donc intéressé au solaire. Après avoir suivi une formation offerte par son syndicat, il s'est lancé à son compte en 2015 et a cofondé Kubi avec un ami de l'école secondaire qui travaillait alors comme ingénieur minier, Adam Yeraniouk. La première année, dit-il, nous avons fait environ 15 installations, probablement 150 kW. Cette année, ce sera probablement 30 à 50 mégawatts. C'est qu'en plus des maisons, fermes, entrepôts et commerces en tout genre, Kubi intègre du solaire à des bâtiments d'envergure. C'est le cas du spectaculaire Centre des congrès d'Edmonton, où prospèrent les plantes tropicales, et de la nouvelle caserne de pompiers du quartier Windermere, avec son toit aux allures de pente de ski. Sans oublier le collège Red Deer Polytechnique, où plusieurs bâtiments arborent des panneaux solaires, dont la résidence étudiante, où les capteurs sont carrément intégrés dans les murs extérieurs. Kubi compte aujourd'hui plus de 130 employés, dont une trentaine proviennent eux aussi du secteur pétrolier et gazier. Comme Paul de Groot, qui a quitté son poste d'électricien syndiqué dans une raffinerie, en quête d'un souffle d'air frais. Entré chez Kubi comme installateur il y a un peu moins de 5 ans, il est aujourd'hui directeur général du bureau d'Edmonton. 19 294. Nombre de particuliers et d'organisations enregistrés comme microproducteurs d'énergie solaire en Alberta pour une puissance installée totale de 238,7 mégawatts. Source Solar Alberta. L'enthousiasme des Albertains pour l'énergie solaire s'explique par une combinaison de facteurs uniques au pays. D'abord, la ressource. La province jouit d'un des potentiels photovoltaïques les plus élevés au Canada. Voir la carte. Calgary et Edmonton figurent parmi les 5 villes canadiennes à plus fort potentiel, derrière Regina et Saskatoon, et aux côtés de Winnipeg, toutes moins populeuses. Ensuite, le prix des systèmes, qui a fondu comme neige au soleil. En 2015, le coût était d'environ 4 $ par watt installé. Ça a diminué de moitié, résume M. Kubiski. Divers programmes de subventions provinciaux, fédéraux et municipaux ont achevé de convaincre beaucoup de clients. Vous écoutez « L'essor du solaire au pays du pétrole », un dossier d'Ariane Kroll, paru le 4 mai 2024 dans La Presse. Le marché albertain est également très favorable à la microproduction. Particuliers et organisations peuvent installer un système d'une capacité équivalente à leur consommation, jusqu'à 5 MW, et vendre leur production excédentaire au réseau moyennant crédit. Ils ont aussi accès à un tarif saisonnier où l'électricité excédentaire qu'ils envoient au réseau l'été leur est créditée à un tarif plus élevé, 30 sous par kilowattheure, que celui qui leur est facturé à l'achat l'hiver, 12 sous par kilowattheure, par exemple. Et ce qui pèse aussi très lourd dans la balance, ce sont les tarifs d'électricité albertains parmi les plus élevés au pays. Au printemps 2023, alors que les clients résidentiels montréalais se voyaient facturer un peu moins de 8 cents du kilowattheure, ceux d'Edmonton et de Calgary devaient payer entre 28 et 30 cents. Le tarif facturé aux clients n'ayant pas de contrat à long terme, qui fluctue chaque mois au gré du marché, a même dépassé les 32 cents en août 2023. Les prix ont doublé l'an dernier, s'exclament les Albertains dès qu'on leur parle d'électricité. Les maisons étant surtout chauffées au gaz naturel, les panneaux solaires n'effacent qu'une partie de la consommation d'énergie. Un système résidentiel comme celui des Moorhead, coûtant plus de 20 000 $, c'est long à amortir. Ça prend environ 25 ans, prévoit Corey. Il reste qu'en été, le système solaire produira assez d'électricité pour combler les besoins de la maisonnée, notamment l'air climatisé que le couple s'est résigné à faire installer l'été dernier parce que la fumée des incendies de forêt l'empêchait d'ouvrir les fenêtres. Et envoyer des surplus au réseau. Assez de surplus, espèrent les Moorhead, pour que leur consommation hivernale ne leur coûte plus rien. Pour une entreprise spécialisée dans la vente de systèmes solaires, les coûteux tarifs albertains sont le meilleur argument de vente, estime le PDG de Kubi, Jake Kubiski. Ça commence à devenir un produit grand public davantage qu'un produit de niche, mais on n'en est qu'au début. Du pétrole au watt. Le concessionnaire de véhicules usagés, Park Premium Auto and Leisure, à Sherbrooke Park, une banlieue voisine d'Edmonton, offre un stock étonnant ces jours-ci. Motoneige, quad et gros autoquads, biplace, occupent encore la majorité du plancher, mais à travers ces engins gourmands en carburant fossile, on aperçoit plusieurs véhicules électriques ou hybrides. Une petite BMW i5 ici, une Nissan Leaf là, le Rivian du patron dans la cour. Le marché des véhicules de loisirs, c'est encore bien. C'est juste que je ne veux plus faire ça pour longtemps, explique Jean-Pierre Grenier, un Sherbrookois d'origine installé en Alberta depuis 25 ans. Ce qui l'allume désormais, ce sont les autos électriques usagées. Dans un an, il ne vendra que ça, prévoit-il. Tu arrives à un moment dans ta vie où tu te dis « On dirait que je ne fais rien pour la planète. Ma fille va avoir 20 ans. J'aimerais que le monde soit une belle place où vivre pour elle », espère Jean-Pierre Grenier. Le marché des véhicules électriques est encore embryonnaire en Alberta. Non seulement la province n'offre pas de crédit d'impôt à l'achat, mais elle vient aussi de leur asséner une taxe annuelle de 200 $, en vigueur en 2025, pour compenser les taxes non perçues sur l'essence. Je conduis une auto électrique, et la moitié du monde rit de moi quand j'arrive quelque part. Mes panneaux solaires, c'est la même chose, illustre M. Grenier. Les panneaux solaires, il les a fait installer l'été dernier sur sa maison située dans le village d'Ardrossan. C'est à une douzaine de kilomètres à l'est de Sherwood Park, mais avec l'application installée sur son cellulaire, c'est comme s'il y était. Consommation énergétique de la résidence, production des panneaux solaires, tout s'affiche en temps réel avec force graphique. Là, il ne fait pas soleil, donc je ne produis quasiment pas. 0,67 kW, alors que ma maison, elle, utilise 1,1 kW en ce moment, nous fait-il voir. Mais même en ce début d'avril, les derniers jours où il a fait soleil, il produisait déjà 7,5 kW. Impact de l'éclipse du 8 avril, rendement par temps froid ou nuageux, les propriétaires de panneaux solaires adorent partager leurs captures d'écran sur les réseaux sociaux. Ces données en temps réel ne sont pas seulement ludiques. Elles incitent à l'efficacité, témoigne M. Grenier. Quand tu vois exactement ce que ça consomme de laisser 8 lumières allumées à longueur de journée, tu te dis « OK, pourquoi est-ce que je gaspille ?» se demande-t-il. La recharge des véhicules électriques de la famille se fait désormais durant les journées ensoleillées afin d'utiliser l'énergie générée gratuitement par les panneaux solaires. Le lavage et le séchage à la machine aussi, et pour réduire l'usage de la sécheuse, il a installé une corde à linge. « Je n'en avais jamais eu », souligne le quadragénaire. Quand sa chaudière, communément appelée fournaise, au gaz, arrivera en fin de vie, dans quelques années, il optera sans doute pour une thermopompe. Une fois que tu ouvres la porte à une chose, on dirait qu'une autre vient automatiquement. Si j'ai des panneaux solaires, pourquoi n'aurais-je pas une auto électrique? Tu deviens plus conscient de ces choses-là, constate M. Grenier. J'essaie juste de faire ma part. C'est pour ça que je dis aux gens, fais ce que tu peux. À un moment donné, tu vas te rendre compte que tu peux peut-être en faire un petit peu plus et encore un petit peu plus. Vous écoutez « L'essor du solaire au pays du pétrole », un dossier d'Ariane Kroll paru le 4 mai 2024 dans la presse. La solution mouton. Les brebis qui sont ici ont eu leurs agneaux dans les derniers jours. Ils se tiennent tous ensemble dans la même moitié de la grange parce qu'ils viennent d'être tondus, explique Jana Greer en nous montrant sa bergerie. 2 jours auparavant, il faisait près de 20 degrés Celsius au Whispering Cedars Ranch. Parfait pour la tonte annuelle des 600 moutons que Mme Greer et son mari élèvent près de Strathmore, à une 60 km à l'est de Calgary. Au moment de notre visite, toutefois, la neige tombe à gros flocons. Rien comme au Québec, où en ce 4 avril, plus de 400 000 clients ont subi des pannes d'électricité, mais assez pour qu'à la radio, on ne parle que de ça. Des animateurs tentent de voir le verre à moitié plein. Ça compensera un peu l'hiver pauvre en neige qui fait craindre un autre été de sécheresse dans le sud de l'Alberta. Le manque d'eau est tel qu'il risque d'affecter jusqu'à la production pétrolière et gazière, a annoncé la firme Deloitte dans un rapport diffusé la veille. Au moins une région a déjà interdit l'utilisation de son eau traitée pour la fracturation hydraulique et d'autres pourraient suivre, a prévenu Deloitte. Gérer le broutage. Le mois prochain, les moutons du ranch iront faire un petit tour de camion jusqu'à une ferme d'un autre genre, une ferme solaire, comme on appelle ici les immenses parcs de panneaux photovoltaïques qui, en quelques années, se sont multipliés dans le sud de la province. Situé à moins de 10 minutes du ranch, le parc Strathmore Solar compte plus de 109 000 panneaux répartis sur 320 acres. Les 600 brebis et leurs agneaux, soit 1500 à 1800 bêtes au total, y brouteront paisiblement jusqu'en novembre. Les gens disent « C'est super, tu fais brouter tes moutons. » Mais c'est plus que ça, souligne Mme Greer. C'est une routine de broutage gérée dans le but d'améliorer le sol et le terrain au fil du temps. Une fois les panneaux installés, les propriétaires de parcs solaires doivent reverdir le site laissé en terre battue par le chantier. Cette végétation doit ensuite être gardée courte pour maximiser la production d'énergie et prévenir les risques d'incendie. Lorsque le ranch a proposé ses moutons aux propriétaires du parc solaire, Capital Power, ils trouvaient ça un peu fou au début, mais les deux parties ont développé un partenariat extraordinaire. Les moutons, dit-elle, offrent plusieurs avantages. Les moutons, dit-elle, laissent du fumier derrière eux, la végétation devient plus diversifiée, et vous ne vous promenez pas dans de gros tracteurs qui brûlent des combustibles fossiles. C'est la troisième année que le ranch loue les services de son troupeau. On essaie de rester un peu moins cher que la coupe mécanisée à environ 80 à 85 % du coût pour qu'il puisse se dire « c'est excitant, on économise un peu et on est meilleur pour l'environnement ». Les blancs moutons ajoutent une touche bucolique au site, mais ils ont leurs exigences. Le gazon traditionnel n'étant pas assez nourrissant, il faut semer un mélange d'herbes et de légumineuses au moins un an à l'avance, sans oublier l'eau qu'il faut apporter chaque jour. Et si vous laissez les moutons libres d'aller n'importe où, ils vont manger les plantes les plus désirables et laisser le reste derrière. Pour assurer un contrôle efficace de la végétation, les bêtes sont rassemblées dans un espace d'environ un acre, délimité par des clôtures électrifiées qu'il faut déplacer presque chaque jour. Une petite remorque coiffée de panneaux solaires fournit l'énergie nécessaire pour alimenter les clôtures et les quelques outils utilisés pour la finition. À l'ombre des panneaux solaires. Les modules solaires du parc fournissent des abris appréciables aux moutons comme à la végétation. Contrairement à ici, au ranch, où tout est plus sec et exposé aux éléments, l'herbe à l'ombre des panneaux est florissante, a constaté Mme Greer. L'utilisation du parc solaire permet aussi au couple d'avoir beaucoup plus d'animaux qu'il ne pourrait en nourrir avec sa seule terre. C'est ce qu'on appelle de l'agrivoltaïsme, une combinaison d'agriculture et de panneaux photovoltaïques. Des cultures expérimentales de laitue, de brocoli, de blé et d'autres végétaux comestibles ont d'ailleurs obtenu de meilleurs rendements sous panneaux solaires, ont rapporté des chercheurs canadiens dans la revue Sustainability en 2023. Et depuis que l'Alberta a serré la vis aux promoteurs d'énergie renouvelable, à la fin de février 2024, l'agrivoltaïsme suscite beaucoup d'intérêt, témoigne Mme Greer, qui offre aussi des services de consultation. Des entreprises, à qui j'avais déjà parlé et qui étaient un peu indécises, se sont rapidement manifestées en me demandant comment aller de l'avant. L'agrivoltaïsme permet en effet d'opposer une réponse constructive à ceux qui craignent de voir les panneaux solaires monopoliser les terres et pâturages de la province. Le projet Hera Solar, avec ses 1,1 million de panneaux dans le comté de 40 Mile No. 8, dans le sud-est de la province, s'est par exemple heurté à une farouche opposition des Farmers and Ranchers Against Solar lors de son dépôt en 2022. Le promoteur a pris plusieurs engagements, dont celui d'envisager des moutons pour contrôler les mauvaises herbes. Le projet a finalement été autorisé en avril 2024. L'agrivoltaïsme suscite de plus en plus d'intérêt dans le monde, notamment aux États-Unis et en Europe. Installer des panneaux sur 1% des terres agricoles de l'Union européenne permettrait de quintupler la production d'énergie solaire actuelle, a estimé un rapport de la Commission européenne en 2023. Lorsqu'elle a ramené ses moutons au parc solaire en mai 2023, Mme Greer a constaté que l'herbe était beaucoup plus verte et touffue dans les zones qui avaient été broutées et engraissées par ces bêtes l'été précédent. Lorsqu'ils enlèveront les panneaux, dans 25 à 30 ans, ils n'auront pas seulement de la terre battue et des touffes de graminées éparses qui ne servent pas à grand-chose, mais ce sol et cette végétation qui seront encore bons, explique-t-elle. L'idée, c'est de laisser le terrain dans un meilleur état que celui où on l'a trouvé. C'était l'essor du solaire au pays du pétrole, un dossier d'Ariane Kroll, paru le 4 mai 2024 dans La Presse.
Ni Trump, ni Biden sur les routes du Québec. Un texte de Bruno Marcotte paru le 3 avril 2024 dans La Presse. L'engouement pour les plaques personnalisées semble s'essouffler au Québec, où plus de 23 000 d'entre elles avaient été délivrées en 2018, contre moins de 5 000 l'année dernière. Et de CAQ-APQ, en passant par MURD-ERD et KXKKXXK, la SAAQ refuse plus de 2 demandes pour chacune qu'elle accepte. Moins d'engouement. Le programme de plaques personnalisées de la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAQ, a connu un engouement monstre peu après son lancement en 2018. Tant et si bien que cette année-là, 23 356 plaques personnalisées ont été délivrées. Dans les années subséquentes, l'intérêt semble cependant avoir chuté peu à peu jusqu'à atteindre un creux de 4 779 nouvelles plaques en 2023. Plus de refus que d'octroi. Selon une liste dressée par la SAAQ, obtenue par la presse en vertu d'une demande d'accès à l'information, quelque 144 000 demandes ont été refusées depuis la mise en place du programme. Du lot, la plupart ont été rejetées d'emblée par le système qui est en mesure d'effectuer un premier tri. Plus de 3 000 demandes ont toutefois nécessité une analyse plus poussée. Sur la même période, près de 64 000 plaques ont été délivrées. C'est donc dire qu'environ 7 demandes sur 10 ne respectaient pas les règles de la SAAQ. Les règles. Quelles règles? Avec son programme de plaques personnalisées, la SAAQ souhaite permettre aux automobilistes de se démarquer en choisissant une combinaison unique et originale. Ce n'est pas sans condition, toutefois. Déjà, il faut savoir que seules les lettres de l'alphabet et les chiffres sont autorisés, que les espaces ne sont pas permis et que la lettre O deviendra automatiquement le chiffre 0. Mais ce n'est pas tout. La SAEQ, organisme apolitique? Dans une volonté apparente de se soustraire au clivage politique, la SAEQ a refusé nombre de demandes laissant poindre une quelconque allégeance. Plus d'une trentaine de références à l'ancien président américain Donald Trump ont ainsi été rejetées, qu'il s'agisse de DJ Trump, 45 Trump ou No Trump. Le nom de l'actuel président Joe Biden ne devrait pas non plus se retrouver sur les routes du Québec, puisqu'une demande pour Biden 20 a été déclinée. De manière plus locale, Legault, Trudeau et BAE-PLQ n'orneront pas non plus l'arrière des véhicules de la province. Pas facile d'y voir clair. Vite, arrivez-vous à faire la différence entre KXKKXXK et XKXKXKX? Non? C'est sans doute pourquoi la SAAQ a rejeté d'emblée ces deux demandes. Sur son site, on peut en effet lire que le numéro doit être clair et facile à lire. Dans la même veine, la société n'autorise pas les combinaisons de plus de 4 caractères identiques consécutifs, qu'il s'agisse d'un songeur MMMMMM ou d'un fatigué ZZZZZZ. Pas de véhicules de luxe au rabais. Des Porsche, Tesla, Ferrari et Ducati continueront sans l'ombre d'un doute de sillonner les routes de la belle province, mais on ne retrouvera aucun de ces mots sur les plaques personnalisées. La SAAQ interdit tout nom distinctif et utilisé comme marque de commerce enregistrée. Netflix et Marvel sont également proscrits, de quoi possiblement déplaire à certains cinéphiles. La SAAQ dit non à Tax SAAQ. La combinaison choisie ne doit pas laisser faussement croire que le propriétaire du véhicule routier est une autorité publique, un agent de la paix ou un contrôleur routier, ou qu'il travaille pour un service d'urgence ou un organisme gouvernemental, lit-on sur le site de la SAEQ. Suivant cette logique, les agencements Parmed C, Urgence et Pompier avec un Y ne sont pas permis. La SAEQ a aussi pu rejeter les demandes de certains automobilistes qui ont tenté un pied de nez, la visant directement, dont Tax Sac et Sac Vol. Une certaine rectitude attendue. Sans grande surprise, la SAEQ ne permet pas que soient véhiculées des idées obscènes ou de nature sexuelle, pas plus que les plaques encouragent une infraction criminelle. Le langage abusif ou péjoratif est également proscrit. Ce faisant, « fuck you » et « idiot », de même que « bad lady » et « want sex » sont tombés sous le couperet. Quant aux propos qui pourraient inciter à une infraction criminelle, on recense notamment « murder day »,« race PLZ »,« 5N1 père pour sniper » et fraude. En savoir plus, source Société de l'assurance automobile du Québec. $280.54, c'est le coût d'acquisition d'une plaque personnalisée plus à chaque année des frais de gestion de $38.81. C'était Ni Trump ni Biden sur les routes du Québec. Un texte de Bruno Marcotte paru le 3 avril 2024 dans la presse.